Philippe Falquet, on est d'accord. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Paris, membre du CEDREF LCSP. Voilà, et vous avez proposé comme titre pour l'intervention d'aujourd'hui lutte décoloniale autour du territoire corps, de la guerre à l'extractivisme néolibéral au Guatemala.
Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs. Je suis, moi aussi, hein, vous l'avez, d'autres l'ont déjà dit, mais je suis vraiment très contente d'être là en présence. C'est vraiment, même si je suis aussi contente d'être avec des personnes que nous devinons à travers l'écran, ça nous change de tous ces webinaires et de toute cette séparation qui nous est imposée à la fois par la pandémie, mais quand même surtout par nos autorités politiques. Je vais essayer de faire le lien avec différentes choses qui ont déjà été évoquées, soit par les œuvres artistiques, soit par les autres personnes qui ont parlé. Donc, et je vais quand même, je vais parler du Guatemala, je vais parler des luttes, d'un certain nombre de luttes contemporaines de femmes que moi j'ai l'habitude d'appeler indiennes, mais qu'on peut appeler aussi autochtones, indigènes, qu'on peut appeler mayas, qu'on peut décliner dans leurs différents noms de ethniques. Avant ça, je voudrais quand même rapidement me situer, puisque moi aussi je pense que c'est très important la situation à partir de laquelle on réfléchit, on parle, on regarde, etc. Je voudrais me situer à la fois sociologiquement et politiquement. Donc, ce sera assez rapide, mais je donne un petit élément quand même. Donc, sociologiquement, de manière en quelque sorte objective, même si l'objectivité peut vraiment être discutée, du point de vue des rapports sociaux de sexe, au moment où je suis née, j'ai été déclarée femelle et donc devant devenir une femme. Au niveau, on va dire, national, j'ai les papiers français, donc d'un pays anciennement et présentement colonisateur et d'un pays occidental. Et je suis blanche au sens politique. Et puis, au niveau, donc ça c'est au niveau des rapports sociaux de race et au niveau des rapports sociaux de classe. J'appartiens à la classe privilégiée de par mon origine et de par ma situation actuelle d'être maîtresse de conférence, d'avoir un travail stable, un salaire fixe, au moins jusqu'à ce que l'université achève d'être démantelée par les différents programmes gouvernementaux. Ça, c'est d'un point de vue sociologique. Après, on pourrait donner encore d'autres éléments, mais enfin, au plan des rapports sociaux qui me semblent les principaux aujourd'hui dans notre réalité sociale. D'un point de vue politique, c'est pas exactement la même chose. Il peut y avoir des hiatus, des différences, des transformations individuelles et collectives. Et donc, au niveau des rapports sociaux de sexe, j'essaye de ne pas rester ou de ne pas devenir une femme. Et en ce sens, je suis à la fois féministe et lesbienne, au sens de Monique Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes. J'essaye de ne pas être une femme, dans le sens, j'essaye de ne pas être opprimée et de ne pas être prise dans les rapports de sexage et d'appropriation collectif et individuel par rapport aux hommes. En termes de race, des rapports sociaux de race, j'essaye de ne pas, de moins contribuer, disons, à la reproduction du racisme et du colonialisme et des rapports Nord-Sud, et je parlerai justement de ces questions de ce qu'on peut essayer de réfléchir et de combattre dans le colonialisme. Et puis, au niveau des rapports sociaux de classe, eh bien, j'essaie de participer à des analyses du capitalisme et des analyses critiques du capitalisme et de transformer cette réalité capitaliste qu'on peut aujourd'hui qualifier de néolibérale. Je me situe dans cette tentative individuelle et collective de m'opposer à cette logique donc combinée patriarcale, raciste, colonial et capitaliste. Ok, donc c'est à partir de cette situation complexe, multiple, que j'ai été amenée à vivre, non pas au Guatemala, mais au sud et au nord du Guatemala, donc dans le Chiapas au Mexique, et puis au Salvador en Amérique centrale. Et j'ai de nombreuses fois traversé et passé du temps au Guatemala. Et j'ai fait aussi une recherche, en fait, dans le cadre d'une ANR, une recherche sur la visibilisation des violences sexuelles commises par l'armée guatémaltèque dans les années 80, donc au moment de la guerre civile, qui était aussi une guerre révolutionnaire. Et j'étais très intéressée par le fait que la visibilisation de ces violences sexuelles massives et délibérées contre les femmes indiennes, cette visibilisation, elle a été faite, c'est un projet, c'est une lutte individuelle et collective qui a été menée par les femmes directement affectées elles-mêmes. Et en fait, j'avais été très intéressée, alors j'ai vécu moi dans les années 90, hein, aussi bien au Chiapas qu'ensuite au Salvador, et j'étais très impressionnée par le fait que, voilà, une amie m'avait dit une fois, un jour en me présentant une autre amie guatémaltèque, me dit, oui, bah, tu vois, elle a, c'est une activiste, à l'âge de 15 ans, elle a été attrapée par la police en train de distribuer des tracts, donc dans les années 70, et elle a été terriblement torturée, au point qu'elle a perdu la vue. Elle a eu les yeux bandés, etc. Et puis, en fait, bon, elle a fini par retrouver la vue. Et en fait, c'est cette femme qui, depuis, est devenue à la fois psychologue et anthropologue, qui a été à l'origine d'un travail de longue haleine, de plusieurs années, enfin, de même une vingtaine d'années, pour mettre en lumière ces violences sexuelles des années 80. C'est un travail qui commence, disons, à partir de 96, au moment où il y a des accords de paix au Guatemala, et c'est un travail qui s'étend jusqu'à à peu près 2012 et qui permet que pour la première fois dans un pays latino-américain et des Caraïbes, un ancien dictateur, en l'occurrence Ríos Montt, soit condamné par un tribunal de son propre pays et soit condamné en réalité non pas exactement pour ses violences sexuelles, mais soit condamné pour génocide. Alors, je voudrais quand même vous présenter d'abord un petit peu le contexte et vous dire pourquoi ça me semble intéressant de parler du Guatemala, et c'est à plusieurs titres, donc ça ce sera un premier grand point. Et puis ensuite, je voudrais vous présenter de manière un peu plus précise peut-être ce qui constitue peut-être le cœur de ce qui peut vous intéresser en lien avec tout ce qu'on a évoqué maintenant, qui est la proposition du féminisme communautaire guatémaltèque, d'ailleurs d'un groupe plus particulier qui s'appelle Amis Nassar. Et donc, une des porte-paroles est une femme qui s'appelle Lorena Cabanal. Cette proposition qui s'est beaucoup développée et qui maintenant commence à être très connue, c'est une proposition qui tourne autour de l'idée qu'il est nécessaire de défendre de manière simultanée ce qu'elles appellent le territoire terre et ce qu'elles appellent le territoire corps. Et c'est une proposition qu'elles insèrent et qu'elles revendiquent comme une proposition féministe, et que de l'extérieur aussi, tout un tas de gens ont interprété comme écologique et d'une certaine manière écoféministe. Est-ce que ça va bien? On m'entend bien? Est-ce que les gens sur l'écran, là, derrière cette... est-ce que tout va bien pour elles et nous aussi? Je ne sais pas s'il y a des réactions.
Oui, il peut pas être une réaction.
Bon. Alors, le contexte du Guatemala... Qu'est-ce que je veux dire sur le Guatemala? Le Guatemala, il est important, c'est un petit pays d'Amérique centrale qui a plusieurs particularités. Une des particularités, c'est que malgré donc, le processus colonial et de génocide qui dure depuis maintenant plus de 500 ans, c'est un pays où la population indienne, ou bien autochtone, reste majoritaire. Même s'il y a différentes manières de compter, c'est très politique, etc., on peut dire... qu'on peut estimer à peu près à 60% la population indienne. Donc, c'est quelque chose de tout à fait de très significatif. Et c'est une population indienne qui est à la fois très diverse, bien sûr, mais qui est quand même aussi très majoritairement d'une grande, d'une grande perspective culturelle. Disons, ce sont des Mayas. Même si à l'intérieur du groupe Maya, il y a beaucoup de groupes ethniques et linguistiques différents, même très différents, et qui, à l'époque précoloniale, étaient éventuellement opposés entre eux. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 22 groupes mayas différents reconnus. Et puis, il y a aussi un groupe qui est réapparu, en quelque sorte, indien, mais qui n'est pas maya, qui sont les Chincas. Et puis, il y a aussi une population Garifuna, donc noire, afrodescendante. Et puis, il y a des populations métisses.